bonjour. Vous voyez pourquoi le noble silence, c'est bien. Répétez-moi s'il vous plaît qui est là pour la première fois. Restez les mains là. Vous êtes venu à des retraites déjà? Ok. Oui. C'est la première fois, c'est-à-dire la première fois au centre ou la première fois dans la pratique? Mais la pratique, vous la connaissez? Très bien. Nous avons des thèmes d'études. Cette année, le thème est très, très, très profond, c'est la conscience. Mais nous n'allons pas commencer avec ça maintenant. Le bouddhisme, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, peut être très mal interprété. Tout à l'heure, on a parlé des perceptions, des fausses perceptions. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des perceptions. Alors, si on est complètement nouveau dans la pratique, d'un côté c'est facile, parce qu'on ne sait rien, et c'est bien quand on part de rien. Parce que si on est prêt, on reçoit et on accueille tout ce qui est neuf. Et on peut vous dire n'importe quoi parce que vous ne savez rien. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre les enseignements du Bouddha. C'est un thème très important parce que, alors, ou on ne sait rien et on commence à apprendre, ou on apprend et on interprète mal, ou on comprend mal, et on revient à nos perceptions, on revient à tout notre bagage déjà intellectuel. Parce que on nous a appris beaucoup de choses, on nous a enseigné beaucoup de choses, nos familles, nos écoles, la vie, nos quartiers, nos villes, on apprend toutes sortes de choses. Et quand on parle d'arrêt, c'est vraiment un terme merveilleux parce que qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter? C'est pas seulement un arrêt physique, c'est arrêter de penser de telle ou telle façon. C'est arrêter des fausses croyances, accepter de regarder avec un esprit neuf. C'est pas toujours facile. Et pour cela, il faut se prêter à cela. Il faut vouloir dire, ok, qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je viens dans un centre de méditation? Est-ce que je suis prêt et prête à faire ce qu'il faut faire pour changer, pour améliorer ma vie? Est-ce que je suis vraiment prête? Quand on commence, on a beaucoup de désirs, on veut vraiment changer, on attend, on cherche quelque chose. Et puis après, il se peut qu'on reprenne nos énergies d'habitude. Et c'est très courant. Beaucoup d'entre vous doivent le savoir. Bouddha était un homme qui a cherché un moyen, ou plutôt qui, avant de chercher le moyen, il a cherché à comprendre lui-même comment faire pour se libérer de la souffrance de la vie ici présente. Alors, pour moi, qui ne suis pas né bouddhiste, je pourrais croire et penser que je nais, je viens dans ce monde, et au fur et à mesure que j'avance dans la vie et dans le monde, je vais vers la souffrance. Et je peux le vérifier avec beaucoup de personnes ici aussi, quand on parle de vieillesse, quand on parle de maladie, quand on parle... On dirait qu'on est à l'école primaire, on est insouciant, on est joyeux, on est content, et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on va vers les problèmes. On va vers l'adolescence, on va vers la puberté, on va vers le mariage, on dirait qu'on va... Eh ben, le Bouddha, il fait ça à l'envers. Lui, il a vu, parce qu'il était très choyé dans son palais, il était très protégé. Son père le protégeait beaucoup parce qu'il voulait en faire un roi et parce que des ermites avaient prédit que ou bien il serait roi ou il serait moine. Le roi ne voulait pas que son fils prince devienne moine. Alors il a entouré, il a protégé. Mais le jeune prince demandait à son serviteur de le faire sortir du palais parce qu'il se demandait qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur du palais. Et en sortant de son palais, ben, il a vu que la maladie existait en voyant un homme malade. Il a vu que la vieillesse existait en voyant un vieillard. Il a vu que la mort existait en voyant un cercueil. Mais il a vu autre chose aussi. Il a vu un moine marcher paisiblement, sans bagage, libre. Et c'est le moine qui l'a attiré et la prédiction de l'ermite s'est avérée juste. Bouddha n'était pas content dans sa condition et pourtant, il était tellement bien dans son palais. Mais quand il a vu qu'on vieillissait, qu'on mourait et qu'on était malade, pour lui c'était des souffrances. Alors il a décidé de tout quitter pour essayer de comprendre ce cycle de la vie qui est souffrance. Maintenant, ce qui est fantastique avec lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il part à l'envers. Il dit quand on est, quand on vient dans ce monde, on vient dans un monde de souffrance. Quand on sort du ventre, on crie, on souffre. Quand on aime, on souffre parce qu'on est attaché. Quand on vieillit, on est attaché. Quand on est malade, on est... Tout ça. Mais comment on a une vie à vivre, donc on part avec de la souffrance, mais on va vers la non-souffrance. On va vers la libération de la souffrance. On va apprendre à traverser cette vie de façon légère et intelligente et sensée. Et au lieu de subir, vous avez peut-être entendu le nom samsara. Samsara, c'est comme une roue qui tourne. Et on recommence continuellement. On n'en sort pas. On sort pas de ce cycle de vie et de souffrance et encore parce que on est, on renaît, on en tout cas. Alors, il s'est assis et il s'est regardé. En fermant les yeux, il s'est observé. Et il a vu qu'il a un corps, il a vu son corps, parce que vous savez qu'il a essayé d'être ascète à un moment donné, et il ne mangeait plus, il ne se baignait plus. Alors, il a tout essayé pour essayer de comprendre, mais en étant ascète, il a vu que ça ne marchait pas, parce qu'il souffrait, parce qu'il dépérissait, parce que... Alors il dit, non, ça ne marche pas, ce n'est pas en étant ascète que je vais essayer de trouver une solution. Donc ça ne sert à rien de se mutiler, de se morfondre. Il faut être bien avec soi-même. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. On n'a pas besoin d'aller dans des choses sévères, dans des écoles strictes. Il faut être sera bien. Alors si je vous dis que le bouddhisme et le Bouddha enseignent le bonheur et non la souffrance, ça c'est la première constatation et c'est la première preuve que quand on ne connaît rien du bouddhisme et quand on lit dans les livres, beaucoup ont déjà associé les enseignements bouddhistes comme sombre, triste, nihiliste, comme il n'y a rien, comme, c'est tout à fait le contraire. Alors ça, c'est la mauvaise compréhension. Le principe de base qu'on pratique et que le Bouddha a découvert en se regardant, il a vu que quand il était assis, il avait des sensations. Ces sensations amenaient des émotions. Ces émotions amenaient des pensées, ou bien vice-versa. Les pensées amenaient des sensations, qui amenaient des émotions. Bref, il a vu que tout ça était interrelié. Et il a comparé ce corps et ses sensations à une rivière. Une rivière qui, vous savez, un enchevêtrement, l'eau qui apporte la sensation, qui apporte l'émotion. Et ça peut paraître simple, mais c'est bien de voir que quand on comprend le mécanisme, alors c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Ça veut dire que rien ne nous domine. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'extérieur. Ça veut dire que tout est en nous et que ça vient de nous et qu'on peut faire quelque chose. Et la prochaine, à la retraite, ce sera la conscience. Et la conscience, on la compare à un champ, un jardin. Notre conscience, on se demande qu'est-ce que c'est la conscience. Vous savez, on a une conscience collective. Ce n'est pas ma conscience, ta conscience, sa conscience. On est tous dans la même conscience. Et c'est un jardin où tout est là. En fait, quand on voit un bébé naître, on dit « Ah, regarde comme il ressemble à sa mère. Ah, comme il ressemble. Ah, il a déjà son petit caractère. Hein. » Et quand on dit ça, juste le fait de dire « Ah, il a déjà son petit caractère », ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose en lui. Il ne naît pas de rien. Il est une continuité de quelque chose et de quelqu'un. Elle dit « Ah tiens, il ressemble à son grand-père. » C'est la suite. Il est un produit de quelque chose. Alors il a déjà une conscience et cette conscience a été héritée de. Maintenant, en grandissant, comme à notre âge là, si on est là, c'est parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas en nous-mêmes, des choses qu'on veut changer, des choses qu'on veut améliorer. Et ces choses-là, c'est ce qu'il y a dans notre conscience. Vous voulez changer une habitude, c'est dans la conscience. Un sentiment, un caractère, une mauvaise humeur, des tempéraments, c'est dans la conscience. Alors, comprendre les enseignements du Bouddha, c'est comprendre que tout inter-est, que tout a une fin, mais recommence et se transforme. Et que, au lieu d'aller vers la souffrance, on va vers le bonheur. On va vers la libération de la souffrance. C'est ça le parcours. Et comment est-ce que le Bouddha a regardé ça? C'est en faisant attention. Alors, d'ailleurs, il a dicté ou il a parlé, il a dit à ses disciples à quoi il faut faire attention. Alors, on fait attention à notre corps, à nos sensations, à nos perceptions, nos émotions, nos perceptions, à nos formations mentales, à notre esprit. On peut faire attention à l'esprit. Un autre moine a dit, une fois qu'on perçoit, une fois qu'on voit comment l'esprit fonctionne, on est déjà sur le chemin de la libération. On sait comment déjà sortir de notre condition. C'est comme un problème. Quand un problème est difficile, dès qu'on commence à comprendre un petit peu, ah, alors déjà on sait, je suis capable de le résoudre. Ou parfois on a des fils entremêlés et il y a des nœuds, c'est très très fort. Et on reste longtemps à essayer, c'est impossible de les desserrer. Et tout à coup, il y a quelque chose qui bouge et on sait qu'on va pouvoir défaire ce nœud. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'ai des stores dans un solarium et les fils sont très longs. Et chaque fois, je tire ou je remets, je tire et je remets. Et parfois, les fils s'empêtrent. Et parfois, il y a des nœuds qui se forment. Et je reste longtemps, j'évite, je fais tout mon possible pour éviter pour que ça s'emmêle, et parfois ça s'emmêle. Et quand je prends une aiguille à tricoter, finalement, je sais que je vais pouvoir démêler les nœuds. C'est la même chose avec nous. On peut penser qu'on ne va pas s'en sortir. On ne voit pas d'issue. Et on vient chercher de l'aide. Et on décide de faire quelque chose pour soi. Ça veut dire qu'on s'est déjà pris en main. Et ça, c'est un pas énorme. Maintenant, l'autre perception erronée, et qui arrive souvent, que beaucoup de personnes viennent ici et sont mal à l'aise avec les saluts, avec le Bouddha là, assis sur l'eau, avec des chants, ou avec... Et qu'on pense qu'on va changer notre religion, ou on va rentrer dans quelque chose, dans une secte. Alors, il n'en est rien, c'est rien de tout ça. Les personnes qui viennent ici, moi-même, je n'ai pas changé ma religion, on apprend à vivre en pleine conscience. On ne rentre pas dans un centre religieux, on rentre dans un centre de pleine conscience. Tout simplement. C'est très bien de se poser la question, d'abord quand on entreprend un voyage, on sait où on va, ou on sait où on veut aller, à moins de prendre sa roulotte et de dire, ben, je sais pas où je vais, là où ça me mènera. Pour les voyages, ça peut être agréable, mais pour une vie, c'est quand même bien de savoir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Qu'est-ce qui me dérange ? Le problème, c'est quand les choses nous dérangent et qu'on ne sait pas quelles sont ces choses qui nous dérangent. Ça veut dire qu'on les subit. C'est très désagréable. Si on marche dans une pièce où tout est noir, tout est obscur, et qu'on heurte quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Avant de venir ici, avant de déménager ici, nous étions dans un local à la rue Saint-Hubert et nous devions sortir par un petit hangar. Et ce hangar, quand on éteignait la lumière, c'était le noir total. Un soir, je suis sortie avec Madame New. On a éteint les lumières et on devait ouvrir l'autre porte pour sortir. Eh bien, figurez-vous que nous deux, nous ne savions pas, et c'est un tout petit hangar, c'est quoi, 2 mètres carrés, il y a des tapis, il y avait un rideau, et tout à coup, on tâtonnait comme ça, on ne savait plus où était la porte, c'était le noir total, ça nous a pris quelque temps, quand on a ouvert la porte de la rue, oh, on a vu, et c'était pas la première fois qu'on était là-bas, c'était des années. Mais juste pour vous dire comment, quand c'est noir, on peut ne pas voir. Et notre vie peut être comme ça aussi. Qu'est-ce qui peut être noir ? L'anxiété, c'est tellement courant de nos jours. C'est quoi ? C'est la maladie du siècle ou quoi ? L'anxiété. Pourquoi est-ce que je suis anxieuse ? Je ne sais pas. Ça, c'est le pire. On se lève avec l'anxiété, on dort avec l'anxiété, on dort avec un nœud dans l'estomac, mais on ne sait pas pourquoi. C'est terrible. Alors si on ne fait rien pour ça, ou si on ne se pose pas de questions, ou si on ne cherche pas à comprendre un petit peu, ça dégénère en dépression, en déprime. Ça va de plus en plus loin. On s'enfonce. Le stress. On a tellement de choses à faire dans la journée. Et on est marié, on a des enfants, et on a des études. Tout ça, on n'a pas le temps de prendre le temps. Alors, c'est ça le samsara aussi. C'est ça, c'est la roue qui nous emporte, qui nous emporte, qui nous emporte, jusqu'à ce qu'on se pose ces questions-là. Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire? Combien de fois on prend des abonnements dans les gyms et on n'y va jamais? 600 $, 700 $. À un moment donné, j'allais, il y a plusieurs années, j'allais au gymnase. J'étais la seule femme, 6 hommes, seule femme, parce qu'on se levait à 6 heures du matin. J'y allais pendant des années, je l'ai fait. Et puis à un moment donné, j'étais très occupée, je ne pouvais plus y aller à 6 heures du matin. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais même pas aller pendant à 10 heures du matin, je n'avais pas le temps. J'ai payé toute l'année, jamais été une fois. Alors ça veut dire que il y a des moments où on est prêt à faire des choses, d'autres moments où on change. Ce n'est pas ça qui marche, c'est quelque chose d'autre qui va marcher. Alors je me dis, oh ben je marcherai dans la rue, c'est tout aussi bien. Je fais beaucoup de choses, j'ai des escaliers chez moi, je fais assez de sport. Toutes sortes de choses. Prendre un papier et un crayon et écrire. Qu'est-ce que je veux? Et ne croyez pas, c'est pas si évident de répondre à cette question. Parce qu'on croit qu'on veut des choses. Et une fois qu'on les écrit, on voit que on n'y tient pas tellement. On a des amis qui sont en voyage en ce moment, ils sont en Italie. Et les photos sont magnifiques. L'une d'entre elles est une île avec un palais. Juste une île avec un palais. Le palais occupe presque toute l'île. Il paraît que c'est magnifique. Est-ce que je voudrais habiter là? Est-ce que je voudrais mener ce genre de vie, avoir un palais, avoir des serviteurs, avoir des gens qui s'occupent, qui fassent le ménage, qui réparent le toit, qui réparent le truc? Pas très sûr. Et pourtant, j'adore l'Italie, j'adore les îles, j'adore tout ça. Mais allez, il faut pousser dans notre désir et regarder vraiment qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux vraiment ça? On entend beaucoup que la vie est dure. À la force de le dire, on va finir par le croire. Et il se passe des choses qui nous montrent que la vie est dure. Ce n'est pas tous les êtres humains et tous les hommes et toutes les femmes qui ont décidé de vivre en pleine conscience. C'est très peu qui vivent en pleine conscience. Et beaucoup qui suivent leur obstination, qui restent ancrés dans leurs croyances, fermés aux autres. Et c'est ça qui crée une vie très dure. Et même si on ne parle pas de ces personnes-là, si on parle des hôpitaux, si on parle des médecins qui sont débordés, qui n'ont pas le temps de s'occuper de nous, qui oublient des points après une opération, et qui n'ont pas le temps d'enlever le point qu'ils ont oublié. Tirer juste un fil qui fait mal, très mal. Le docteur qui a opéré ne répond plus de lui. L'infirmière, non, ce n'est pas sa responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'urgence. Pour un fil? C'est parce qu'on ne vit pas en pleine conscience. C'est parce que on s'enferme dans une croyance que c'est ça ce que moi j'ai à faire, je ne touche pas à ce que l'autre a à faire. Ça ne me regarde pas, j'en ai trop. La pleine conscience, ça touche beaucoup de domaines et ça touche des domaines qu'on ne soupçonne même pas. Les gens viennent, s'inscrivent, veulent apprendre à méditer. Et on s'attend à beaucoup de choses parce qu'on a entendu. Mais il y en a qui savent que quand on s'assoit en méditation, on n'a rien à atteindre. Et ceux qui ne connaissent pas la méditation et qui l'entendent pensent qu'on s'assoit et qu'on devient paumé et que je sais pas moi, on peut devenir des êtres illuminés ou quelque chose. Beaucoup de fausses perceptions. Alors que, tout simplement, c'est d'apprendre à vivre d'une façon sensée. Et c'est ça, la méditation. Alors, une fois qu'on répond à ces questions, la bonne nouvelle du Bouddha, c'est que, oui, la vie est souffrance, et ça c'est les quatre nobles vérités. Parce que après toutes ces journées d'assises, ah, il a dit, mais oui, la souffrance existe. Et après, mais il y a une cause à la souffrance. Enfin, comme ça, ça tombe pas du ciel. Et je suis capable de chercher la cause de ma souffrance. Vous savez, on n'est pas dans des... On entend qu'il y a des sectes où des personnes imposent, sont forts. Comme une personne peut imposer ses vues à tout le monde et embobine et les autres suivent aveuglément. On n'est pas dans ça. Enfin, qui on est? On se réveille et on voit qu'il n'y a pas de puissance comme ça qui... Tu fais pas ça, je te punis. Si tu fais pas ça, tu vas à l'enfer. Si tu fais pas ça... J'ai deux pieds, j'ai deux mains, j'ai deux yeux, j'ai des oreilles. Je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de prendre soin de moi. Je suis capable de prendre ma vie en main. Qui c'est qui peut m'en empêcher? Même si je vais en prison, je suis capable de prendre soin de moi. Je peux marcher. Thich Nhat Hanh a été dans les prisons et il a appris aux prisonniers, vous êtes prisonnier, vous êtes enfermé, mais vous pouvez marcher. Vous pouvez faire la marche méditative. Vous pouvez garder votre souveraineté intérieure. Et ça, c'est énorme. Même si on perd la liberté plus large, mais il y a une liberté à l'intérieur de nous qui est l'allègement de la souffrance. C'est cette liberté intérieure qu'on va trouver dans la méditation, dans la vie en pleine conscience et dans la pratique de l'arrêt. Arrêtez de vivre comme des fous. Arrêtez de manger comme des fous, arrêtez de parler comme des fous, de penser comme des fous, de juger, de discriminer, de comparer, d'être méchant. Tout ça, ça peut s'arrêter. Il y a la vue juste. Est-ce que je suis sûre de ce que je pense? Est-ce que je suis sûre que le voisin passe son temps à écouter des choses dégueulasses? Ou voit des choses dégueulasses. Non, juste à le voir passer dans la rue, je dis, ah, celui-là, il a l'air... Ok. Attention à ce que tu penses. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu fais. Attention à ta pratique. Est-ce que tu pratiques quand même borné? Il faut que je dise ça 50 fois par jour. Et il faut que je récite ça, il faut que j'allume ça, il faut que je fasse ci, il faut... Pourquoi est-ce que je fais ça? Si ça m'apporte le bonheur, si ça ne m'est pas imposé, d'accord? Mais si je suis sous l'emprise de quelque chose, que je ne suis pas contente, ça ne marche pas. Alors on arrête tout ça et on regarde qu'est-ce qui cause des malaises. Et puis... On commence par la respiration. C'est tellement simple. Parce que quand on s'assoit en méditation, on s'assoit, si on vient là pour la première fois, on s'assoit pour la première fois, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'assois correctement? Est-ce que je dois tenir le dos comme ça? Est-ce que je dois respirer fort? Est-ce que je dois respirer pas fort? On s'assoit. On est confortable. Si on n'est pas confortable, on change de position. Il n'est pas dit que on doive s'asseoir en lotus, absolument, et que les mains doivent être là. Et c'est seulement une suggestion. On s'assoit pour regarder comment on est. On s'assoit pour regarder comment réagit notre corps. On s'assoit pour regarder quelle partie du corps nous dérange. Qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que je peux ne pas ajuster? Et une fois qu'on est assis et qu'on accueille et qu'on accepte notre façon de nous asseoir, moi j'ai commencé avec deux coussins, comme ça, oh, je ne pouvais pas, avec les genoux à la japonaise. Et puis, j'étais contente parce que je pouvais bouger, parce que les crampes, ça vient très vite. Dans certains centres, on vous demande de ne pas bouger pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Tu t'assois, tu ne bouges plus. Ça fait mal. Thich Nhat Hanh, qu'on a vu sur l'écran, il dit que si on est assis en méditation et qu'on n'est pas heureux et que si on souffre, ça veut dire qu'on fait quelque chose mal. Ça veut dire qu'on est encore, on comprend un enseignement tordu. Ça veut dire qu'on se trompe. Alors d'abord faire le vide de toutes les idées, de tous les trucs, tout ça, et puis revenir à soi-même et voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire. Une fois qu'on est assis, on va voir et on va constater qu'il y a des sensations. J'ai eu froid tout à l'heure. C'était une sensation. C'était pas agréable parce que j'avais froid dans le dos. Mais comme j'étais devant la cloche, c'était bien. C'était bien. Et j'ai plus eu froid. Pourquoi? Parce que pendant que je dictais ou pendant que je guidais la méditation, je me guidais aussi. J'inspire, je sais que j'inspire. Alors j'étais prise avec ça, j'étais occupée avec ça. Puis la sensation est partie. Quand il y a des choses qui se passent, on a le retour à la respiration. On regarde, on voit que ça dérange, on voit que ça arrange, mais on veut rester stable. Alors on revient à la respiration. Et ça, c'est l'enseignement du Bouddha aussi. Qu'il était assis et j'inspire, et je sais que j'inspire. Tiens, je sais que j'inspire. Et je sais que j'expire. Ah tiens, mon souffle est long. Ah, cette fois, il est court. Ah, mon corps commence à se calmer. Ah, est-ce que je suis heureux? Je me sens mieux. Je me sens mieux qu'en arrivant. Je commence à ressentir de la joie. La joie de quoi? Juste d'être assis, à ne rien faire et à être tranquille. Ah tiens, j'ai des pensées. Mon esprit n'arrête pas. Il s'agite. Est-ce que je peux rendre mon esprit heureux? Je sais que ça va passer, ces pensées-là. Ah oui, je reviens à ma respiration. Elle continue. Elle m'a calmée tout à l'heure. Peut-être qu'elle va calmer mon esprit aussi. Alors je reviens à la respiration et je respire. J'inspire, et j'expire et je la suis et je la suis. Ah tiens, les pensées sont passées. La pensée de tout à l'heure a disparu. Est-ce que j'ai encore froid? Ah non, j'ai plus froid, c'est passé. Et puis je m'installe dans ma respiration. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui monte aussi. Oh, hier, hein, j'ai vu cette chose-là qui était tellement triste. Et puis je rentre dans la tristesse. Et puis je m'aperçois que tiens, il y a la tristesse qui commence à dominer mon état d'esprit. Parce que j'ai pensé à quelque chose. Parce que je me suis souvenu de quelque chose. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je respire. Je reviens à ma respiration. Ça me fait du bien. J'inspire, j'expire, jusqu'au bout. Pourquoi? pas jusqu'au bout parce que on peut respirer. Ou on peut respirer. C'est pas jusqu'au bout. Alors, j'inspire jusqu'au bout pour dégager mes poumons. Ah, l'émotion a disparu. Je suis plus triste. C'était juste. Et c'est comme ça la vie. Toute la journée, ça va être comme ça. On va se sentir triste, on va se sentir enthousiaste, on va se sentir découragé, on va se sentir... Alors, on a une pratique. Alors, cette vie de yo-yo, là, continuellement, ça peut nous épuiser, ça peut nous fatiguer. Alors, on cherche une voie de pratique qui nous convienne, sans nous enfermer dans des croyances d'attachement. Thich Nhat Hanh a dit que la pratique de la pleine conscience, quand on la pratique bien, elle nous ramène à nos racines. Elle nous fait faire la paix avec nos racines, notre famille. Et on accepte parce qu'on voit le meilleur de la chose. Vous savez, quand il allait au Vietnam, les communistes ne l'aiment pas beaucoup. Et il était là devant un auditoire de je ne sais pas combien de personnes. Et il a dit, et il y avait des policiers cachés, il a dit, vous aimez Karl Marx? Lisez Karl Marx. Vous aimez faire des prosternations? Faites des prosternations. Vous aimez fumer? Fumez. Mais quand vous lisez Karl Marx, sachez que vous êtes en train de lire Karl Marx. Quand vous fumez, fumez en pleine conscience. Quand vous buvez de l'alcool que vous ne pouvez pas vous empêcher, prenez conscience de ce désir, de cet attachement et de cette répétition. Juste prenez-en conscience. C'est ça la pratique de la pleine conscience. Quand on parvient à savoir où on veut aller, dans quoi on veut aller et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, c'est comme si il y a une force en nous qui nous rend capables. La semaine dernière, mon fils qui est à New York nous a appelé. Oh, tout a sauté, l'air conditionné, la prise et le toaster et la machine à café, là, tout a sauté. Alors, avec Skype, il nous a montré comment. On a dit, ouais, il y a une surtension, c'est pas possible, il faut que tu appelles un électricien parce que tu peux pas le faire tout seul. On est resté plusieurs moments à parler de ça. Quelques jours après, il nous appelle, on dit, non, Yann, il faut pas toucher là-bas parce que il faut éteindre tous les... Non, trop dangereux. Ben, la semaine d'après, il nous appelle, maman, regarde. Il allume la lumière et il voit qu'il avait tout réparé. Parce qu'on avait essayé. Et puis tu vois, quand je fais comme ça, ça ne s'allume pas. Mais non, ça s'allume. L'autre, il marche. L'autre, ça ne marche pas. J'étais dans la cuisine. Il était tellement heureux. Et nous aussi. Parce que waouh, bravo, parce que c'était difficile à faire. Il a été chez Home Depot. Il a acheté les prises. Il dit, oui, mais tu sais pas. Ils les ont mises à l'envers. Parce qu'il avait lu les instructions. Mais alors, il a acheté la prise, mais eux, au lieu de mettre en haut, en bas, ils ont inversé le truc. Il a passé plusieurs heures à faire ça, et puis, après, il a dit, après, j'ai compris. J'ai vu qu'ils avaient inversé, alors il a tout refait. En tout cas, il était fier de lui, et nous, on était fiers. Juste pour vous dire, on n'est pas dépendant de quelqu'un. Appeler un électricien, ça aurait coûté les yeux de la tête. Et l'insatisfaction de pouvoir le faire soi-même et de ne pas comprendre, parce qu'une autre fois, si ça, enfin des choses comme ça. Ça nous arrive à nous dans la vie de d'arranger les choses, de réparer les choses, de faire des choses soi-même. Moi, je suis tellement fière quand je répare les choses moi-même. Je me sens capable. Et alors, tout est démystifié. Cet été, j'étais à la plage et cette plage, elle est un peu spéciale parce que le sable est rose. Et ça fait des années qu'on va là. Pourquoi le sable est rose? Parce qu'il y a du granit rose. Il y a des gros rochers en granit rose. Et en marchant, j'ai vu une pierre comme ça, cette grandeur-là, une merveille, tout en granit, tout rose. Oh, je l'ai vu, je dis, ça c'est pour mon jardin. Mais de la plage au camping, c'est peut-être 10 minutes de marche. Quand je suis légère, quand j'ai rien. Et chaque fois que je vais à la plage, je repars avec un sac de sable. Du sable rose. C'est lourd. Et quand je vis cette pierre, j'ai dit, oh, faut que je la prenne. Et ça faisait mal, parce qu'elle me grattait les bras. Et je cherchais quelque chose, j'avais rien. J'avais rien avec moi. J'ai trouvé un sac de plastique quelque part. C'était assez propre. J'ai pris et j'ai mis la pierre. Elle était comme ça, comme un bébé, mais lourd. J'ai marché. Je faisais du 2 à l'heure. Ça m'a pris un temps fou pour retourner au camping. Mais je ne voulais pas lâcher cette pierre. J'oublierai jamais parce que c'était lourd. Et à un moment donné, le plastique se déchirait et la pierre me faisait mal. Mais en tout cas, je vous ai dit, j'ai pris le temps que ça a pris, marcher, comme ça avec la pierre. Je suis arrivée, mon mari et ma soeur, tu es malade, tu es folle, tu t'as trimballé ça avec toi. En tout cas, je l'ai posé, fière de moi. J'étais fière de moi. Et la vie, c'est juste des choses comme ça, que rien ne peut nous arrêter, qu'on est capable de passer outre, et on est capable, je ne veux pas dire endurer, parce que bon, c'est quand même une pierre, il y a des choses beaucoup plus douloureuses que ça, je sais, okay, et des maladies, mais si on peut regarder, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux endurer? Quel est mon recours? Dans quoi je vais me réfugier? Alors on a la pratique. On a la pratique de la pleine conscience. J'aimerais que vous cherchiez dans votre esprit et que vous me disiez quelles sont ou quelle est votre méconnaissance ou comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous perceviez quelque chose de façon erronée ou que vous aviez une fausse idée de la méditation ou de la pleine conscience ou du bouddhisme ou du bouddha ou du centre. Qu'est-ce que vous croyiez avant de venir ici? Soyez pas gênés. Oui, l'idée que c'était rigide, c'est comme je l'ai dit ici plusieurs fois, ce qui m'a soulagée, rassurée, attirée, c'est quand j'ai lu dans le petit livre Les enseignements du Bouddha, c'est un tout petit livre, qui expliquait tu es responsable, tu peux faire ce qu'il y a à faire pour toi-même, personne ne peut pas t'imposer ses vues ou les façons de faire. Ça, c'est la grande liberté du bouddhisme. C'est que on se prend en main. Et Bouddha lui-même disait, conseillait, vous êtes votre propre refuge. Même un grand maître ne peut pas vous dire, tu dois faire ça et ça et ça et ça. Si ça ne te convient pas. Alors ça, c'est une liberté immense. Lorsque nous allons à des retraites en France, il y a plus de 1000 personnes et toutes les religions sont là. Il y a des coins de traduction et quand vous rentrez dans la grande salle, vous êtes impressionnés parce que à terre, il y a tous ces appareils de traduction et des pancartes. Spanish, Dutch, français, anglais, allemand, tout plein. Les gens viennent du monde entier et repartent avec un sentiment d'ouverture. Au lieu de « je vais quelque part et on me dit ça », mais c'est plutôt « je vais quelque part, on me dit ça » et ça m'ouvre encore plus à une pratique, à un mode de vie incroyable. Et c'est pour ça que d'année en année, il y a de plus en plus de monde et la pratique de la pleine conscience n'est pas une pratique de religion. C'est une pratique, c'est une façon de vivre que vous adoptez si ça vous convient et que vous lâchez si ça ne vous convient pas. Maintenant, il y a une chose. Quand on dit « j'inspire et je sais que j'inspire », « j'expire et je sais que j'expire », qu'on soit juif, musulman, catholique, protestant, tout le monde respire. Marche en pleine conscience, ne cours pas, marche. Reste dans tes pas, ne te perds pas dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes tracas. Qu'on soit juif, musulman, catholique, protestant, je marche en pleine conscience. La pleine conscience n'a pas de religion. Quelqu'un d'autre ? Tu voulais parler ? Un exemple de comment on peut mal comprendre l'enseignement, que les amis d'ici connaissent. Il y avait un vieux moine qui pratiquait dans la sangha de Bouddha et qui vivait seul et qui pratiquait seul et qui faisait tout seul. Et les moines ont remarqué ça, comment il fait tout seul, il s'éloigne de nous, il vient pas se joindre à nous, il est isolé. Et ils ont demandé, ils ont été voir le Bouddha. Il dit, il y a ce vieux moine-là qui fait ça tout seul. Ça. Alors le Bouddha l'a fait venir. Il dit, est-ce que c'est vrai que tu aimes pratiquer seul et que tu aimes vivre seul et que tu aimes aller chercher ta nourriture seul, faire l'eau monte seul. Le vieux a dit oui. Alors le Bouddha, il n'a pas commencé à l'engueuler. Parce que quand on vit en communauté, on vit ensemble, on fait les choses ensemble. C'est comme si aujourd'hui, je vais juste blaguer, on va manger ensemble en pleine conscience ici. C'est comme peut-être l'un de vous va vouloir aller manger dans la salle. On ne va pas vous engueuler. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de ça. Alors il dit, ok, tu veux pratiquer seul, c'est très bien tout ça. Il fait, mais moi je vais t'apprendre une autre façon. Une meilleure façon de vivre seul. Alors, une meilleure façon de vivre seul. Et après ça, il y a eu un sutra qui a été écrit, qui s'appelle « La meilleure façon de vivre seul ». Comment on vit seul ? On peut vivre seul comme ça, dans la forêt, faire toutes nos choses. Mais il y a une autre façon de vivre seul et qui va rejoindre notre pratique. Et qui va vous dire l'essence de la pratique. Ce qu'on veut vraiment atteindre, même si notre pratique c'est de ne rien vouloir atteindre. Okay, on joue avec les mots là. On veut la paix, n'est-ce pas? On veut la paix. On veut être serein. On veut faire face aux problèmes de façon courageuse, sans geindre, sans pleurnicher. On veut pouvoir être capable de supporter des choses. La réalité de tous les jours, parfois, elle est dure. Et on veut conserver notre sérénité et notre souveraineté. Moi, j'adore quand Thaï, Thich Nhat Hanh parle de souveraineté, quand il dit, quand vous marchez, marchez comme un lion, marchez fièrement, parce que vous êtes libre. Et quand on dit qu'on est libre, c'est pas qu'on a des boulets aux pieds. Et vous savez, quand j'ai porté cette grosse pierre, j'étais libre. J'étais pas libre de la pierre, mais à l'intérieur de moi, j'étais libre. Même si elle me faisait marcher très douloureusement. À l'intérieur de moi, j'étais libre. Alors le Bouddha lui dit, je vais t'apprendre comment vivre seul, la belle façon de vivre seul. Si tu n'es pas attaché aux choses du passé, et si tu n'es pas coincé par les choses du futur, si tu vis l'instant présent, juste l'instant présent, sans être perturbé intérieurement, quand tu prends ton café, tu es juste avec ton café. Quand tu es avec un enfant, tu es avec l'enfant. Et tu n'as pas la tête ailleurs. Alors, tu es libre. Alors, tu es seul. Maintenant, moi-même, j'avais mal compris. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je croyais que, la meilleure façon de vivre seul, moi j'adore être seul. J'aime pratiquer seule, j'aime rester seule chez moi. J'ai dit, tiens, ça me convient tout à fait. Mais après, quand j'ai appris, quand j'ai entendu les explications, qu'est-ce que ça voulait dire, apprendre à vivre seule, j'ai pris presque honte. Je me dis, j'avais mal compris. Hein. Alors, si j'avais rien entendu, j'avais pas entendu l'explication, je serais restée avec mes fausses perceptions. Je lis un titre, et je pense quelque chose. Maintenant, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que dans l'explication, on représente, on imagine, on représente que le passé, ou que les idées, ou que les pensées, et que les émotions, tout ça, tout ce qui nous constitue, sont des petits personnages. Vous savez, dans les livres, dans les comics, il y a des petits personnages. Il y a la conscience. Je ne sais pas dans quel comic c'est qu'on voit le bonhomme et puis il y a sa petite conscience à côté. C'est un tout petit bonhomme qui n'arrête pas de lui dire « Tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça. » C'est sa conscience qui tourne autour de sa tête. Alors imaginez que tout ça, nos émotions, nos idées, nos pensées soient des tout petits personnages qui sont là, au-dessus de nous, autour de nous, et qui circulent. On en a continuellement dans la journée. On n'est jamais seul, pas vrai? C'est ça ce que ça veut dire, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec nous, des intrus, des gens qui entrent, qui ouvrent la porte, qui ne s'annoncent pas, qui rentrent, comme ça. Des intrus, ils sont toujours là. Alors les pensées, elles sont toujours là. Eh bien, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a une belle pratique, on a une pratique d'accueil, on va dire, oh, vous êtes les bienvenus, vous voulez rester, mais restez donc. Mais excusez-moi, j'ai du travail à faire, je ne peux pas m'occuper de vous, mais si vous voulez, vous pouvez aller vous asseoir dans le petit bureau. Si c'est un enfant, on va lui dire, ok, écoute, chérie, maintenant, je ne peux pas, je travaille, tu vas t'asseoir là, colore, ne me dérange pas. Mais l'enfant, il est là, on le sait, on le sent, il est là. Et moi, je continue à travailler, mais mon enfant est là. Je sais, ça m'arrive. Alors, ces pensées sont des compagnons qui vont toujours être là, même la nuit parfois. Quand vous perdez le sommeil, c'est parce qu'il y a ces compagnons qui font du bruit. Ils vous réveillent et vous empêchent de dormir, ils font du tapage. Quand vous avez un voisin qui fait du tapage, vous essayez d'aller lui dire, écoutez, vous marchez trop lourdement, ou bien baissez votre radio. Alors, c'est des choses qu'on a à régler dans la vie. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Quand on perd le sommeil, on voit ces compagnons-là qui s'imposent dans notre lit pour faire une blague. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va vers notre pratique. On vient à notre respiration. on se concentre sur cette régularité-là. On regarde notre corps, on essaye d'apaiser notre corps. Au lieu d'essayer d'apaiser le compagnon qui s'impose, on va plutôt chercher à calmer notre corps physique. Et on va laisser le mental se démener. Ok ? Alors, je respire, je me calme, je respire. Alors, en étant concentré sur la respiration, l'autre voit que je ne m'occupe pas de lui. Bah, s'il est têtu, il va me relancer. Mais si moi, je suis plus tenace et que je vois vraiment que j'ai autre chose à faire et que je veux me concentrer sur moi-même, mon bien-être physique, alors il va finir par se calmer. Il va finir par... Et il y en a pour qui c'est plus difficile. Ce sont des grosses insomnies. Ben, on recommence encore. Et si on peut pas le faire, ben, on va se lever, on va aller faire autre chose. On n'est pas obligé de dormir. On peut aller faire autre chose pendant 15 minutes. On peut aller, je sais pas moi, lire un livre, aller à l'ordinateur ou allumer la lumière. Ah, tiens, les pensées sont parties. On dit, on allume la lumière. Beaucoup de choses comme ça. Alors, ces compagnons, c'est les compagnons des souvenirs passés, des regrets, des pensées, tout ça. Et les compagnons futurs, ce sont des compagnons qui te disent, tu sais, ça va se passer comme ça, et tu devrais faire ceci, et tu devrais faire cela, et si tu fais pas ça, il va t'arriver ça, et comment est-ce que l'autre va réagir, est-ce que... Ah, ils essayent de souffler des réponses, de te souffler à des questions, et t'imposer des questions. Oh, trop de compagnons. Mais dans le moment présent, le seul compagnon qu'on veut auprès de nous, c'est notre respiration. Parce que comment est-ce qu'elle peut nous déranger, elle ? Elle ne peut pas nous déranger. J'inspire, j'expire, je fais ça. Je n'ai même pas besoin de le dire, j'ai juste... Et en me concentrant sur ça, je rentre dans un instant où il n'y a rien, il n'y a rien d'autre, il y a juste... Le bébé ne peut pas dormir, on le calme. On lui passe la main sur le dos, il commence à se calmer. Ou alors on le tape. Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est comme si on accompagne sa respiration. Et c'est comme si on lui rappelle le battement du cœur quand il était dans le ventre. Et c'est calmant. Et pourquoi on ne fait pas ça avec un adulte? C'est très calmant ça. Et ça c'est, ok, je veux bien ce compagnon-là. Alors c'est ça la meilleure façon de vivre seul. Seul, ça veut dire ne pas être mal accompagné. Je choisis mes compagnons. Je choisis mes fréquentations. L'autre exemple, cet après-midi, rappelez-moi.